RCF.
Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous, notre série d'émissions spéciales en région dans la perspective des municipales de mars prochain se poursuit aujourd'hui sur RCF à Toulon dans le Var. Cette commune de plus de 170 000 habitants est la tête de pont d'un territoire dont la filière maritime occupe une place centrale. Premier port militaire français, Toulon est devenu également une destination touristique incontournable. Mais son dynamisme économique s'explique aussi par la manière dont la ville et plus largement le département et la région s'engagent au service de l'excellence maritime en développant des activités portuaires, de transport ou d'exploitation de ressources qui font la part belle à la fois à l'innovation technologique et au souci de l'environnement. C'est ce dynamisme de l'économie de la mer tel qu'il se déploie dans le Var en général et à Toulon en particulier que je vous propose d'explorer ce matin dans Le Temps de le dire. Quels sont les contours de ce secteur, de ces innovations? Comment la préoccupation écologique est-elle centrale? À quelles conditions ce dynamisme peut-il avoir des effets vertueux au-delà de Toulon et du Var? Toutes ces questions et d'autres encore, nous allons nous les poser jusqu'à 10h dans Le Temps de le dire sur RCF. Soyez toutes et tous les bienvenus.
Le dynamisme de l'économie de la mer. Un temps de le dire spécial en direct de Toulon.
Et pour tenter de faire le tour de la question du dynamisme de l'économie de la mer en direct depuis les studios de RCF Méditerranée à Toulon, je suis épaulé par l'un de ses journalistes, Thibaut Sarrazin. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et bonjour à nos invités, Pierre Becker. Bonjour, bienvenue dans nos studios.
Bonjour.
Donc vous êtes fondateur associé de l'entreprise Marine Tech, spécialisée dans l'ingénierie en environnement marin. Donc on aura le temps d'y revenir tout au long de cette émission. Christophe Avelan, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du pôle mer Méditerranée. Pour résumer un petit peu grossièrement, votre rôle, vous, c'est d'accompagner des projets liés à l'économie maritime. Là aussi, on aura le temps d'en parler. Enfin, Boris Bernabeu, bonjour.
Oui, bonjour Thibault.
Donc, directeur général adjoint de la métropole Toulon-Provence Méditerranée. Merci d'être avec nous.
Et le temps de le dire, vous le savez, c'est votre émission. C'est une émission interactive. Vos réactions, questions et commentaires sont les bienvenus. Que vous habitiez le Var ou ailleurs en France et en Belgique, dites-nous ce que vous attendez de ce secteur plein de promesses que constitue l'économie de la mer en appelant le standard à partir de 9h30 au 04 72 38 20 23 ou en nous envoyant vos messages à l'adresse suivante le temps de le dire @rcf.fr.
Toulon, le dynamisme de l'économie de la mer. Antoine Bélier, Thibaut Sarrazin.
Alors quand on parle d'économie de la mer ou d'économie maritime, alors on parle aussi, mais ça c'est un autre terme, peut-être plus spécifique encore, d'économie bleue. On distingue quel type de secteur, Christophe Avelan ?
Alors déjà peut-être pour planter un peu le décor, on parle vraiment d'une économie hein, au niveau mondial, puisque nos entreprises et nos acteurs, autres nos acteurs du territoire, mais aussi s'exportent beaucoup, on le verra tout à l'heure. L'économie maritime pèse aujourd'hui environ 1 500 milliards de dollars, c'est le marché maritime mondial, global, avec des perspectives de croissance encore, puisque l'OCDE estime qu'à horizon 2030, ce sera 3 000 milliards de dollars. Donc c'est de ça dont on parle. Évidemment, après, il faut regarder ce qui nous reste en termes de compétences, de technologies européennes, territoriales, régionales et varoises. Mais c'est effectivement un terrain de jeu extraordinaire. Juste pour donner deux chiffres encore éventuellement pour comprendre de quoi on parle, nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'humains sur Terre, 10 milliards bientôt. Et 80% de cette population vit sur le littoral, exploite le littoral, se nourrit. Et donc on a toutes les activités maritimes assez traditionnelles. Hein, le transport de marchandises, 90% de ce que nous consommons, vient par la mer, ce qui représente des milliards aussi de tonnes, qui ne seraient pas transportables par l'avion, par le train, etc., pour des questions d'impact environnementaux ou tout simplement de capacité technique. Et donc le transport, nos lieux de vie, nos ressources maritimes, ce que nous mangeons, la pêche, notre vie, notre quotidien, effectivement, sont liés à cette économie maritime. C'est de ça dont on parle.
Le transport maritime, vous avez évoqué ce chiffre, 90% du transit mondial de marchandises. Ce n'est pas par contre forcément l'activité première ici dans le Var. Boris,
oui, effectivement, là pour revenir plus spécifiquement sur notre territoire métropolitain,
On va plutôt parler de tourisme. Le département du Var, c'est le premier département de France en termes touristiques. Et la métropole de Toulon, province méditerranée, 14e métropole de France et 440 000 habitants, c'est la première destination en termes de nuitées dans le Var. Donc on peut voir le potentiel que ça représente. Et quand on parle de tourisme, on parle aussi de tourisme balnéaire. Quand on parle d'économie de la mer sur nos territoires, on pense évidemment aussi immédiatement à la marine nationale, à la défense, à tout l'écosystème qui s'est créé autour de cet acteur central depuis le 16e siècle. Donc on a tout un réseau d'entreprises, de start-up, de sous-traitants qui sont dédiés par exemple à la maintenance. On peut parler de plaisance, de refit, de maintenance des yachts. On peut parler de nombreux acteurs, vous voyez, de nombreux secteurs économiques qui font que l'économie de la mer sur le Var, c'est à peu près, on l'estime à 5 000 personnes à peu près. Et sur la métropole, on peut dire qu'on a grosso modo entre 50 et 60 000 personnes qui y travaillent. Rien que la Défense nationale, l'arsenal de Toulon, c'est 20, 25 000 personnes qui le fréquentent.
Vous avez perçu, Pierre Becker, une évolution dans, j'allais dire, ce développement économique depuis que vous travaillez dans le secteur entrepreneurial lié à l'économie de la mer ?
Mais ça fait 40 ans que j'ai commencé. J'étais au début plongeur à la Comex et on avait une espèce de liberté qui était considérable, c'est-à-dire qu'on pouvait aller partout, on n'était pas encombré par les systèmes de contrôle qualité assurance, vous voyez, c'était vraiment des terres d'aventure et de pionniers. Mm-hmm. Ça, c'était une époque formidable. Mais il y a eu un développement considérable lié à l'augmentation de la population, naturellement.
Et vous l'expliquez par quel autre facteur que l'augmentation de la population ?
Oh, c'est un facteur fondamental, hein, parce que quand on voit les chiffres de la population mondiale, et vous avez cité un pourcentage intéressant, que 80% de la population habite au bord de l'eau.
À moins de 100 km.
Oui, et à moins de 100 km. Ça veut dire qu'on est tous, je ne vais pas dire des plaisanciers, mais des côtiers. Quoi. Mmh. Et c'est ce qui intéresse Marinetech, parce qu'on veut donner à boire à ces gens, et on vous dira comment.
Alors Boris Bernabeu, vous avez parlé du développement du tourisme dans le Var et à Toulon aussi, bien sûr. Ça, c'est un développement relativement récent dans les dernières décennies. Ce n'était pas forcément le cas il y a 30-40 ans. On connaît Toulon comme un port militaire, peut-être avant tout, non ?
C'est vrai. Alors après, c'est vrai que le tourisme apparaît sur nos territoires métropolitains depuis plus d'un siècle. La ville de Hyères était une ville identifiée notamment par les Anglais comme un lieu de villégiature. La reine Victoria y est venue. Donc on a cette tradition de balnéaire, du plaisir, des bains qu'on découvre à ce moment-là au début du XXe siècle. On découvre le soleil, le plaisir de se mettre au soleil, de s'allonger sur une plage, tout ce qui n'était pas permis auparavant, qui n'était pas concevable socialement. Donc ce plaisir-là sur le bord de la Méditerranée apparaît notamment ailleurs, et puis se diffuse effectivement sur notre côte, sur notre littoral, et on a cette explosion du tourisme, comme on le retrouve sur l'ensemble de la côte méditerranéenne française, espagnole ou italienne, dans les années 60-70, avec le développement d'un certain nombre de stations balnéaires. Alors nous, sur notre territoire, nous avons été plutôt épargné de ce tourisme de masse, c'est-à-dire que vous le voyez sur nos territoires, on a un territoire qui est préservé, qui a su garder son authenticité, son sentier du littoral, sa qualité de vie, mais c'est vrai qu'on est un pôle aujourd'hui majeur du tourisme sur la Méditerranée.
Pour compléter sur cet aspect tourisme, le développement de la filière croisière aussi, ça c'est un enjeu important ici dans la métropole. Juste un chiffre, mais plus de 2,5 millions de passagers alors au niveau de la région l'an dernier, c'est un chiffre en augmentation. Et c'est, comme je le disais, un enjeu important pour vous. Où en est-on sur cette question-là ?
Absolument. Donc sur Toulon, on a entre 80 et 100 escales par an. Le but pour nous, c'est pas forcément de faire, et pour Hubert Falco, c'est pas de faire du quantitatif. On est là pour du qualitatif. On a de belles escales. On a des escales qui sont à la journée, qui nous permettent de, avec les tours opérateurs, de montrer notre territoire. Et l'idée est de mieux accueillir. Donc notre port se structure, on rénove ses infrastructures et surtout, et j'insiste sur ce point, développe les dernières technologies pour accueillir dans de bonnes conditions de développement durable ces croisiéristes. Donc on est en train de développer l'électrification des quais. Notre président Hubert Falco a annoncé l'utilisation dans notre port désormais pour les ferries de Corsica Ferries, on en parlera sans doute un peu tout à l'heure, du carburant à 0,1%. Donc on a toute une démarche qualité, toute une démarche environnementale pour faire de la croisière, qui est un secteur, un acteur économique essentiel, un acteur avec lequel on a plaisir à travailler, qui ne pose pas de problème, bien au contraire.
On parlera effectivement de cette dynamique environnementale dans cette émission, mais au-delà peut-être du secteur du tourisme, Christophe Avalan, quelles sont les promesses de croissance, plus spécifiquement à Toulon et dans le Var, dans ce domaine général de l'économie maritime ?
Il n'y a pas de limite. On va dire que tous les secteurs se peuvent être adressés par des entreprises et la qualité de la recherche aussi du Var. Juste pour peut-être un dernier chiffre macroéconomique, la région Provence, la région Provence, ouais.
Alors on dit quoi ? On dit PACA ou on dit
sud ? On dit sud, la région est sud, ou Provence-Alpes-Côte d'Azur encore. C'est la première région économique de France. Ça peut surprendre, hein, parce qu'on pense souvent à Saint-Nazaire, les 2 milliards d'euros de contrats, la région Bretagne, la pêche, etc. Mais quand l'INSEE a fait son étude en 2017, la région sud était la première région économique de France. Et donc Boris a rappelé quelques chiffres. Et bien évidemment, nous avons au sein de ce grand territoire des métropoles industrialisées depuis bien longtemps. Toulon, Marseille, Nice, et si on revient sur Toulon, c'est historique. Je pense que le lien fort, comme l'a rappelé aussi Boris, entre la marine nationale, l'armée, les investissements qui ont été faits pour des motifs de recherche, comme l'expliquait aussi Pierre Becker, les liens qu'il y a pu avoir entre la plongée et la recherche sous-marine, cette technologie, elle s'est diffusée au sein de tous les marchés, le transport, les énergies renouvelables, la biotechnologie, la connaissance du milieu marin. Aujourd'hui, les scientifiques qui étudient l'écosystème pour bien le comprendre, pour bien mesurer l'impact aussi de nos activités et demain proposer des solutions de restauration et compensation, utilisent des technologies, par exemple de l'acoustique, qui viennent pour la plupart d'un développement accru qui a été fait, oui, dans le domaine de la défense.
Alors justement, Pierre Becker, on dit souvent que le territoire où nous nous trouvons est au service de l'excellence maritime. Alors j'imagine que c'est une expression qui vous parle. Ça se traduit comment dans les activités que vous réalisez, vous, avec votre entreprise MarineTech ?
Mais déjà, une chose fondamentale, c'est qu'on est au bord de la mer et qui est notre territoire de jeu. Et c'est là qu'on essaye tous nos outils, tout ce qu'on peut développer. Ensuite, on se sent, je dirais, aimé par le Var, parce qu'on a eu l'honneur à la fois d'être récompensé par différents prix. Et à l'occasion de ces récompenses, on n'était pas les seuls, j'étais surpris du nombre d'entreprises, mais vraiment high-tech, innovantes. On sentait des patrons dynamiques, inventifs, créatifs et heureux d'être ici.
Voilà. Donc ça, c'est, j'imagine, dû à la volonté non seulement des entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi du support de la région, de la métropole, de la ville, hein, c'est ça, Boris Bernabeu ?
Oui, effectivement. Donc, on peut dire que l'acteur qui a fédéré tout ça, qui a engendré tout ça, on l'a dit, c'est la Marine nationale. À partir du XVIe siècle, où Henri IV décide de faire de notre rade, qui est juste faite pour accueillir finalement ce type d'activité, c'est la nature qui nous a donné cet avantage. À partir du moment où donc Henri IV positionne l'essentiel de la marine française sur Toulon, sur la façade méditerranéenne, faisant de notre port aujourd'hui, vous l'avez dit, Antoine, le premier de France, mais surtout le premier d'Europe aussi, se développe nécessairement tout un écosystème pour développer, construire, entretenir, équiper, développer des logiciels. Et donc on a tout un écosystème autour du maritime, du naval, des start-up qui s'est développé ces dernières décennies, encore plus évidemment ces dernières années. Et la métropole, avec son agence de développement économique, TVT, et d'ailleurs MarineTech a été accompagné par TVT, notre rôle, nous, au niveau de la métropole, c'est d'accompagner cet écosystème, de faire en sorte qu'il se développe, qu'il trouve de nouveaux débouchés, qu'il dispose de fonciers pour s'installer, qu'il ait de la main d'œuvre. Donc on a toute une action aussi en matière de soutien à l'enseignement supérieur, en lien avec nos écoles d'ingénieurs. Donc c'est toute une action volontariste de la métropole pour arriver à structurer cette filière. Par exemple, nous avons développé le Technopôle de la mer à l'entrée ouest de la métropole, sur Ouyoul. Nous avons développé le parc d'activité marine sur Saint-Mandrier. Ce sont des zones d'activité spécifiques dédiées au monde de la mer, soit de la maintenance, soit des start-up, mais qui nous permettent du coup d'accompagner ce secteur essentiel pour nos territoires.
Alors on va continuer de parler de cette économie fortement innovante, de cet écosystème comme vous venez de le dire. Ce sera juste après cette première pause musicale. Restez avec nous et vous le savez, vous pouvez participer à cette émission à partir de 9h30 en nous écrivant le temps de le dire @rcf.fr ou en nous appelant 04 72 38 20 20. À tout de suite.
Tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses. pose toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, ni le trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu
Vous l'avez reconnu, c'était Michel Polnareff, tous les bateaux, tous les oiseaux.
Toulon, le dynamisme de l'économie de la mer. Antoine Bélier, Thibault Sarrazin.
Après Brioude en Haute-Loire il y a deux semaines, notre Tour de France dans la perspective des municipales se poursuit donc à Toulon, où nous nous intéressons plus particulièrement au dynamisme de l'économie maritime. Thibault Sarrazin de RCF Toulon est à mes côtés, ainsi que des spécialistes, Thibault, de cette économie si stratégique pour le territoire.
Boris Bernabeu, directeur général adjoint de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Christophe Avelan, directeur adjoint du pôle mer Méditerranée. Et Pierre Becker, fondateur associé de l'entreprise Marine Tech, spécialisée dans l'ingénierie en environnement marin.
Alors, on va parler de l'innovation en détail dans cette émission pendant quelques minutes. En tout cas, Pierre Becker, tiens, dites-nous-en un peu plus sur le projet, le fameux projet Helio, qui permet de fabriquer, si j'ai bien compris, de l'eau potable à partir de l'eau de mer.
Oui, c'est pareil. Ça nous a paru comme étant une évidence, parce qu'avec Thierry, on a passé beaucoup de temps à courir le monde et on s'est retrouvé très souvent en bord de mer de pays où il n'y avait pas d'eau, et on voyait ce soleil magnifique, cette quantité d'eau. Et on s'était dit un jour, pourquoi pas la faire évaporer et en faire de l'eau distillée, finalement. Et donc c'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques années et c'est un développement qui est important, et on commence à avoir nos premières commandes. Et la première, c'était en Polynésie, où on a livré nos premières cloches. Elles vont peut-être être installées sur la plage Jacques Chirac à Papeete, et ça devrait être un démonstrateur, et ça devrait montrer à tous les, paradoxalement, parce que les gens qui sont sur des îles, il y a d'autres pluies, mais à un moment il faut que, et puis en plus elle coûte très cher, parce qu'ils consomment de l'eau en bouteille et ça coûte plus de 7 euros une bouteille d'eau, alors que là ils auront de l'eau quasiment gratuitement.
Ouais. Combien d'années de développement pour cette technologie, ces sphères qui permettent de purifier l'eau?
Les développements, ils se font souvent pointillés parce qu'il y a une étincelle, et ce que je vous ai raconté, la prise de conscience du soleil et de l'eau de mer. Ça s'est passé il y a 20 ans, on était à Dubaï, là, au bord de l'eau. On sait quand ça commence, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Parce que dès qu'on invente un produit, eh ben, on l'améliore. Donc, je crois que c'est un développement qui va continuer encore quelques années.
Oui. Dans l'économie maritime, on peut peut-être le préciser, pour revenir à des propos peut-être plus généraux, les innovations, elles concernent autant les filières traditionnelles que les filières plus émergentes, comme ce dont vient de nous parler Pierre Becker, non, Christophe Avelin?
Oui, alors dans les filières traditionnelles, évidemment, on va trouver le transport, et Boris a expliqué aussi combien les armateurs et les métropoles, les riverains, ont besoin d'avoir un transport plus vertueux, plus intelligent. Les modalités de consommation, la consommation change aussi, la forme de consommation, donc il faut adapter ce transport à ses besoins. Les activités de réparation, construction navale, qui sont assez classiques et traditionnelles, même si effectivement aujourd'hui on tend tous aussi vers, comme il y a des voitures électriques, des bateaux zéro émission, électriques, hydrogène, avec de nouvelles formes, de nouveaux usages aussi. On va trouver des secteurs en émergence, mais qui ont une certaine maturité déjà, comme le développement des énergies marines renouvelables. Nous sommes un territoire très innovant, et dans la fer de lance au niveau mondial, sur par exemple le développement des éoliennes en mer, ce sont des éoliennes qui sont beaucoup plus grandes que celles qu'on a à terre, beaucoup de technologies qui viennent de métiers plus traditionnels, comme l'offshore par exemple. Les plateformes pétrolières existent depuis bien longtemps, donc on sait ancrer, on sait développer des objets de plusieurs milliards de tonnes, on sait faire des choses, donc on peut faire des éoliennes. Et aujourd'hui, par exemple, il y a un événement international qui se tient tous les ans sur notre territoire, qui s'appelle FOT, French Offshore Wind Turbines, qui regroupe plusieurs centaines d'experts du monde entier. Ce sera en avril. Voilà. Et puis, il y a des métiers qui sont alors peut-être plus en émergence, on va dire, par exemple les biotechnologies marines, l'extraction de molécules d'intérêt dans les microalgues, les macroalgues, pour faire de la nourriture de demain, pour nos élevages, pour nous-mêmes, des médicaments. On sait que aussi le milieu marin, et Pierre Becker aussi en tant qu'ancien plongeur, peut dire qu'on découvre tous les jours, et on a la chance sur ce territoire, et je pense que Boris aussi pourra expliquer comment on a fait en sorte que ce territoire concentre ses acteurs. On a parlé de la marine nationale, et c'est historique. Autour de ça, il y a des acteurs industriels de premier rang mondiaux, comme Naval Group aujourd'hui, ECA, Alcimar, et j'espère à l'entreprise Marintel le même succès un jour que ces grandes entreprises qui structurent le territoire, qui animent, etc. Mais on a aussi des acteurs scientifiques, l'IFREMER, le CNRS, l'Université de Toulon, qui a pris une coloration maritime et marine, une école d'ingénieurs dédiée qui s'appelle CITEC, et des incubateurs qui font. Donc le pôle, nous sommes un agrégateur, nous sommes un catalyseur, mais il faut aussi des moyens sur le territoire, des volontés, et là, on se retourne vers la métropole qui apporte tous ces outils.
Pas d'innovation sans recherche et développement, on pourra en reparler, mais j'aimerais peut-être évoquer une chose avec vous, Boris Bernabeu, c'est le fait que les filières, on parlait de filières traditionnelles et de filières émergentes, mais il y a quand même un effet d'émulation entre les deux, non ?
Bien sûr, il y a un effet d'émulation parce que ce territoire a su créer cet environnement qui fait qu'on sait faire dialoguer des acteurs de l'économie traditionnelle, des pêcheurs, avec des acteurs, nous, de la nouvelle économie, des start-up, et puis le croisement des deux dans nos structures qu'on a créées, System Factory, TVT Innovation, je l'ai dit tout à l'heure, notre agence de développement économique, fait qu'on arrive à développer des solutions innovantes, des solutions intéressantes, des solutions qui finalement même sont reconnues au niveau national et international. Et autour de la table, on a un exemple avec Marintech. On a souvent des entreprises qui sont effectivement couronnées de succès au niveau national, au niveau international. CES Vegas vient de se tenir encore il y a quelques semaines, et là encore, on a des entreprises du Var et spécifiquement de la métropole qui ont obtenu un award dans ce cadre-là. Donc c'est une grande satisfaction, mais c'est le fruit d'un grand travail de nos élus, d'Hubert Falco, de l'ensemble de la métropole, de l'ensemble des élus de la CCI, de l'ensemble des élus des différentes structures qui ont permis au fil des décennies de créer cet environnement dédié à l'innovation.
Aujourd'hui, cette innovation prend clairement une couleur verte, on peut le dire aussi. Ça, c'est l'un des grands enjeux, et ce sont les grands projets de demain, en tout cas ceux qui nous sont présentés.
Oui, alors bleu, économie bleue, verte ou bleue, je pense que c'est tout le monde le sait, c'est un phénomène de société. On veut vivre mieux, dans un environnement plus sain, consommer mieux, et donc forcément l'économie maritime s'adapte à tous ces développements. Produire de l'énergie, aujourd'hui on a des gens qui souhaitent effectivement avoir des énergies renouvelables, et donc on peut les chercher en mer, et avec des puissances suffisantes pour alimenter des territoires, il faut les mettre en place. Comme l'a dit Boris, tout ça ne doit pas se faire au détriment d'activités autres qui sont par exemple la pêche. Donc là aussi, on parle de synergie. Donc il faut aussi développer des pêches plus durables, plus environnementales, avec des prises plus raisonnées, aller chercher de nouvelles espèces, produire aussi l'élevage. L'élevage marin produit aussi à des besoins. C'est-à-dire que plutôt que de prélever de la ressource rare, on va produire des éléments nutritifs. L'écosystème marin aussi, bien sûr. Le tourisme, et ce qui vient, comme disait Boris, c'est aussi les belles plages, les beaux systèmes, la qualité de l'eau. notre environnement marin, on doit le préserver, on doit le développer, on doit le restaurer. Là aussi, il y a énormément de technologies, de savoir-faire pour qu'on vive tous dans un monde, je vous le rappelle encore, hein, 10 milliards très rapidement sur Terre, sur 100 km de littoral. Il va falloir vraiment qu'on trouve des solutions.
Alors ce souci écologique et environnemental, Pierre Becker, dans votre activité, ça se manifeste comment? Donnez-nous un exemple concret.
Alors un exemple concret, ça a été, on a inventé avec Thierry des filets pour ramasser la pollution.
La pollution
marine, quand il y a un accident avec des hydrocarbures, l'hydrocarbure a la capacité de flotter parce qu'il est moins dense que l'eau. Et pendant longtemps, on voyait des gens patouiller avec des épuisettes, on a eu l'idée de fabriquer un filet, on appelle ça un chalutier, puisque c'est un chalutier de surface et qui arrive à écrémer la pollution. Donc ce prototype a été développé là, il y a 5-6 ans, et depuis on en vend régulièrement. On a un grand stock là, de 300-400 en filet d'avance, et quand il y a des pollutions, on nous appelle.
Cette lutte anti-pollution, c'est aussi l'un des grands enjeux dans les ports, notamment. Il y a des efforts qui sont faits dans la métropole. Boris Bernard, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu le travail qui est mené en ce sens et les outils qui sont mis en place?
Bien sûr. Alors déjà, je voudrais rappeler le classement de Toulon, obtenu il y a quelques mois, comme première ville verte dans la strate des 100 250 000 habitants. Donc, vous voyez, on a toute une action, tout un travail qui fait que notre action est reconnue. Alors plus spécifiquement sur le domaine des ports, c'est une volonté essentielle de notre exécutif, de nos élus, de faire de la qualité de vie une priorité. Parce qu'on peut être sur un territoire qui crée de l'emploi, un territoire qui est dynamique, un territoire au soleil, s'il n'y a pas une qualité de vie, s'il n'y a pas une belle qualité de développement et harmonieux, tout simplement, on n'y reste pas. Donc cette priorité a permis de développer sur le port de Toulon deux axes essentiels. Le premier, en lien avec notre concessionnaire, la CCI, le premier, c'est l'électrification des quais. C'est-à-dire que à partir du mois prochain, tout simplement, en lien avec Enedis, les travaux vont commencer et l'ensemble des quais du port de commerce de Toulon vont être électrifiés. Donc c'est un chantier qui va durer 2-3 ans, mais dès la fin de l'année, on pourra a priori commencer à brancher des bateaux à quais.
Ça, mais en quoi c'est lié à l'environnement ?
Tout simplement parce que le bateau, quand il arrive, il ne continue pas à produire des fumées, d'accord. Il se branche et du coup, ces fumées noires qui posent problème socialement, et je le comprends, vont disparaître, on va les réduire de 85%. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui a été annoncé par Hubert Falco il y a quelques jours, en lien avec le président de la région PACA, Renaud Muselier, on va imposer à nos bateaux qui fréquentent le port l'usage des carburants à 0,1% de soufre. Donc ce qui signifie que là, on va diviser par 35 les émissions de soufre dans notre port. Donc ce sont des efforts tout à fait considérables.
Donc ce défi environnemental, on l'a bien compris, c'est au cœur des préoccupations de ce secteur de l'économie maritime. On va continuer d'en parler plus en détail juste après cette nouvelle pause. Restez avec nous sur RCF, c'est Le Temps de le Dire que vous écoutez.
Le Temps de le Dire revient dans un instant. Aujourd'hui, en faisant un don régulier, vous aidez RCF. Oui, mais demain. Préparez l'avenir de votre radio en faisant dès à présent un leg, une donation, ou en lui déléguant un contrat d'assurance vie. Un engagement de votre part qui permettra aux générations futures d'être accompagnées par RCF. Pour toute information, rendez-vous dès à présent sur rcf.fr/don.
Dans Le Temps de le Dire, en direct de Toulon, nous nous familiarisons avec un secteur économique en pleine croissance qui prend de plus en plus la mesure de l'enjeu environnemental, celui de l'économie maritime. Pour en parler, trois invités, vous nous rappelez qui sont nos invités, hein, Thibault Sarrazin.
Christophe Avelan, directeur adjoint du pôle mer Méditerranée, Pierre Becker, fondateur associé de l'entreprise Marine Tech, et Boris Bernarbeu, directeur adjoint de la métropole Toulon-Provence Méditerranée.
Alors je vais vous poser une question peut-être un peu générale, Christophe Avelan, mais c'est vrai que c'est parfois, on va dire, la quadrature du cercle d'associer croissance et souci environnemental. Comment on peut associer deux choses qui peuvent parfois être non pas contradictoires, mais difficiles à faire consonner ensemble?
Peut-être Antoine, rappeler en quelques mots, parce que pour nos auditeurs, peut-être ils ne savent même pas ce qu'est le pôle mer Méditerranée. Mmh. On va pas décrire la logique des pôles de compétitivité pour le territoire large, mais on va dire que nous sommes une association. Nous sommes aujourd'hui 440 adhérents, la majorité d'entreprises, mais aussi établissements de recherche et scientifiques. On a rappelé quelques-uns. Sur l'ensemble du territoire, nous sommes un acteur à la fois national, labellisé par l'État, et territorial, soutenu par les régions et les métropoles. Et notre terrain de jeu, pour faire simple, c'est l'économie maritime sur la région Occitanie, la région Sud, avec des velléités aller vers le grand export, à l'image aujourd'hui de MarineTech. Mon métier, depuis 15 ans, c'est bien de recevoir les entreprises qui ont des idées, qui disent, tiens, j'ai entendu que, je me suis rendu compte, je viens d'un voyage, je me suis rendu compte qu'il y a un besoin. Et c'est de l'accompagner. Mon métier, c'est bien d'accompagner l'entreprise, lui dire, est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que, d'après ce que j'en comprends dans l'économie nationale, internationale?
Mais avec la grille du souci environnemental, toujours?
Mais bien sûr, parce que si on me propose, et on m'en a proposé en 15 ans, par exemple, dire, ben voilà, j'ai une idée, je souhaite faire des bateaux ultra rapides qui vont à 300 km/h, etc., parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a des acteurs à Monaco. Et je leur dis, c'est très très bien, ok, mais et pourquoi pas? Mais est-ce que c'est là que va le marché mondial? Est-ce que tu vas en vendre un ou est-ce que tu vas en vendre 200? En termes de retombées emploi et d'économie, donc je n'ai rien contre ces innovations, mais je vois bien que la tendance, si on veut s'inscrire dans la durée, c'est pas aller vers des bateaux qui vont de plus en plus vite. Il y aura toujours des gens qui achèteront des bateaux ou des voitures qui iront de plus en plus vite. Mais la tendance, c'est d'acheter des bateaux demain qui consommeront moins, qui consommeront mieux et qui seront parfaitement adaptés à l'usage. Même aussi, par exemple, les gens ne veulent peut-être plus acheter, ils veulent louer. Donc c'est ça aussi, cet accompagnement. Et il y a toujours une prise de conscience. Enfin, je pense qu'autour de la table, nous cinq, on est bien conscients qu'on peut plus continuer à consommer et abuser du pétrole, des ressources fossiles et non renouvelables. Et donc la tendance, c'est bien celle-là. Une action de fond et la maîtrise aussi de son propre impact sur l'environnement.
Donc cette conviction, Pierre Becker, pour vous, elle est fondamentale, même s'il faut renoncer peut-être à faire de l'argent, j'allais dire, sur certaines activités. Mais il faut savoir avoir des convictions écologiques avant d'avoir des convictions, j'allais dire, financières.
Tout à fait. C'est vraiment. J'ai presque envie de dire que le respect de notre planète, c'est un problème, enfin une préoccupation, mais presque intime. À même titre, au même fait qu'on s'occupe chacun de son hygiène, de sa maison, de tout ce qui touche à notre vie. Je crois que chacun a vraiment pris conscience aujourd'hui de sa participation à la dégradation planète, et que le phénomène nouveau, c'est que les jeunes se le sont appropriés, parce que moi, vu mon âge, j'appartiens à une génération passée, mais quand je vois les jeunes qui se sensibilisent au respect de notre planète, ça donne un grand espoir quand même.
Et vous avez évolué vous-même dans cette prise de conscience, de quelle manière?
Déjà, quand on était à la COMEX, ou puis après à Géocéan, vous savez, j'étais le président de Géocéan, que j'ai créé il y a quelques années, et on avait une consigne formelle de n'absolument rien jeter à la mer. C'est-à-dire que, parce qu'à l'avance, c'était connu, les marins, ils jetaient leurs poubelles par la mer. Ça a déjà une idée qui a déjà 40 ans. Quoi.
Christophe Avelan.
Oui, alors juste peut-être pour aussi compléter, il y a la volonté, l'envie, le besoin du marché, mais souvent aussi, il y a une étape importante qui est le financement de la R&D et de l'innovation. Et l'entreprise, elle a besoin d'embaucher, de travailler avec des universités. Le financement, il est souvent, et c'est aussi mon métier aujourd'hui, hein, clairement, d'aller aider cette entreprise, d'aller avoir un soutien financier d'une métropole, d'une région, de l'État, de l'Europe, hein, qui sont des outils de financement de l'innovation. Le critère de non-impact environnemental est de plus en plus présent. Donc je leur dis d'ailleurs deux choses. Si vous voulez atteindre votre marché, il faut respecter cette conscience environnementale. Et si vous voulez avoir de l'argent, il le faut aussi. Donc c'est le double effet couperet. On ne peut pas y échapper aujourd'hui. La conscience, la politique conduisent à avoir un territoire plus respectueux, des innovations plus respectueuses. Une entreprise qui ne s'inscrirait pas dans ces préceptes, a très très peu de chances d'arriver à son terme.
Je crois qu'il y a une volonté profonde des individus. Hein. Ils n'ont pas peur du couperet, mais ils le font vraiment avec vraiment motivation et conviction. Quoi.
Oui. Boris Bernabeu, cette exigence-là se manifeste comment, très concrètement, à la métropole? Vous avez mis en place des critères bien précis?
Bien sûr. Donc, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle d'innovation, on parle d'un territoire de 440 000 habitants. Il ne faut pas oublier que notre territoire, c'est, et j'ai quelques chiffres à rappeler, c'est 60% de la production nationale de fleurs coupées. C'est quand même assez étonnant. On a l'impression d'être dans un territoire industriel. Pour nos auditeurs, qui nous écoutent de la France entière, mais pas du tout. On a un territoire balnéaire tourné vers la nature, vers la qualité de vie. Donc on a 60% de la production nationale de fleurs coupées, notamment de la pivoine, qui se fait sur nos territoires, sur les villes de Hyères et de Lacroix. On est le premier département de France en termes de fleurs coupées, je viens de vous le dire. La métropole, du coup, agit sur un ensemble de secteurs, notamment dans ses compétences. Et parmi ses compétences, il y en a une essentielle, c'est la mobilité, c'est les transports. Et depuis longtemps, nous avons fait le choix de développer des moyens de transport propres à travers des bus hybrides. Nous avons commandé pour la fin 2020 12 bus électriques, à nouveau 47 bus hybrides. Et au-delà de tout ça, on a développé, c'est une des spécificités de notre territoire, 9 lignes de transport en commun par bateau-bus qui traversent la rade dans tous les sens, entre Saint-Mandrier, La Seyne, Toulon. Ce sont des bateaux, des bateaux hybrides. On a plus de 3 millions de personnes qui ont été transportées. Donc ce sujet-là, ce souci-là dont on parle, qui nous anime tous au quotidien en tant qu'habitants de la métropole, de la France et du monde entier, c'est un axe essentiel de développement de notre métropole.
Vous évoquez cette question concernant les transports. Il y a aussi celle concernant le chauffage, pour dire un petit peu grossièrement. Et ce projet de thalassothermie qui a été développé à la Seyne-sur-Mer déjà pour débuter, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut voir étendu à d'autres villes de la métropole et plus globalement du Var?
Oui, alors je pense que même peut-être que Pierre Becker aussi a quelques éléments là-dessus. La thalassothermie, alors déjà pour bien distinguer, c'est prendre des calories dans l'eau de mer pour chauffer ou refroidir des bâtiments, et ça existe depuis très très longtemps. Quand j'ai commencé à travailler sur ces projets il y a quelques années, on s'était déjà rendu compte que sur Monaco, il y a une soixantaine, peut-être aujourd'hui 80, 90 pompes à chaleur eau de mer. Donc c'est quelque chose, quand le territoire en a vraiment besoin, c'est intéressant. Ça existe à La Réunion, ça existe dans notre territoire. Dans certaines zones tropicales où c'est possible, où il y a un delta de température de plus de 20 degrés, on peut produire, avec ces changes thermiques, de l'électricité. Mais sur nos territoires, c'est bien la pompe à chaleur eau de mer. Il y en a deux énormes aussi sur Marseille et qui alimentent tout le projet Euromed. En ce sens, effectivement, le territoire de la métropole a été un des précurseurs aussi parce que c'était une des premières sur ce territoire méditerranéen. Et aujourd'hui, il y a des projets. Donc Marseille, il y en a deux, il y en a d'autres en cours. En Occitanie, on y réfléchit. Alors il faut avoir un accès à la mer, il faut une petite profondeur d'eau. Pas beaucoup de décart de température. Aujourd'hui, une eau en profondeur à 12 degrés permet largement de climatiser des bâtiments de grande puissance.
Et Pierre Becker, il n'y a pas d'impact sur la biodiversité marine ?
Je ne pense pas, parce qu'on prélève
le jour,
c'est très réduit, et puis il y a une telle masse.
Voilà, parlez bien en face de votre micro.
Oui, pardon, ce que je voulais dire, c'est que dans Géocéan, donc l'entreprise un peu dont on vient tous, on a eu deux ou trois contrats déjà pour aller tirer des pipelines en Polynésie qui partent du récif, vous voyez, donc qui est sur l'eau, et qui descendent à 1000 mètres sous la mer. Et à 1000 mètres, l'eau partout sur la planète, elle est à 4 degrés. Et quand on pompe de l'eau à 4 degrés, alors si vous pompez un litre d'eau, il est remplacé par un litre en surface, et vous voyez, il est remplacé par un litre de... Donc c'est une fois que la pompe est amorcée, on a des frigories à quantité, et ça supprime l'installation des climatisations.
Ça montre bien que le savoir-faire s'exporte.
Alors il y a ce savoir-faire-là, j'aimerais peut-être que vous puissiez dire un mot, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, sur le développement de l'éolien offshore, donc l'éolien en mer, est-ce que on en parle beaucoup, est-ce que ça se met véritablement en place, il y a des projets concrets dans ce sens sur le territoire varois?
Alors sur le territoire varois, je ne pense pas, mais ce dont je peux témoigner, c'est que quand on était à la COMEX et puis à José après, on avait vraiment un regard là-dessus et on a soumissionné plusieurs fois. Mais c'est un marché qui est plus dédié aux Hollandais parce qu'ils ont des barges avec des puissances de levage qui sont énormes. Ce sont les plus grosses barges du monde, on les trouve chez eux. Et il y en a beaucoup aussi en mer du Nord. Donc je pense qu'en France, on n'est pas trop en avance là-dessus.
Je partage pas vraiment cet avis, mais bon, en n'étant pas le grand spécialiste, mais il faut distinguer deux choses, c'est l'éolien posé de l'éolien offshore.
Ah oui, je parlais d'offshore.
Ce qu'on connaît dans les mers du Nord, les grandes éoliennes sont posées. Nous, on parle d'éolien offshore.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, elles sont flottantes, ancrées au fond, par des profondeurs de plus de 20, 30, 40 mètres, ce qui permet de les ancrer et de les amener assez loin, on va dire, des usages habituels, pour éviter les risques de collision avec des navires.
Pour qu'on comprenne bien, parce que pas non plus un spécialiste, les hélices sont immergées.
Non.
Elles sont dans le vent.
Elles flottent ça ressemble à une éolienne terrestre, mais en beaucoup plus gros, en deux, trois fois plus gros, et ça permet de prendre des puissances de plusieurs mégawatts. Aujourd'hui, l'État vient d'annoncer un plan de programmation sur l'énergie qui est assez favorable. Les industriels, les grands industriels, les énergéticiens, les Engie, EDF, des acteurs aussi comme Technip, SPM, SAIPM, Cadran, il y a des investissements de plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, c'est une réalité. En Atlantique, ils sont en train de créer des ports. Port La Nouvelle investit énormément. Le port de Marseille a des projets aussi. Alors, c'est toujours... je ne suis pas le plus grand spécialiste, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je laisserai mes collègues en parler s'ils étaient là. Mais il faut discuter, parce que certains voient ces objets comme une nuisance dans leur environnement, mais pour autant, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut de l'énergie sur le littoral, c'est la solution en Méditerranée, puisque on n'a pas d'autres énergies, on n'a pas de houle, on n'a pas de marée. Oui. L'éolien est nécessaire. Alors après, il faut développer ces produits, il faut développer l'industrie, parce qu'on ne met pas une éolienne de plusieurs centaines de mètres de haut comme ça, tout simplement dans l'eau de mer. Il faut des quais, des barges, etc. Les réseaux électriques, la consommation, le stockage, les bateaux, etc.
Vous l'avez dit, c'est pas sans susciter des incompréhensions, voire des résistances. Que ce soit pour l'éolien offshore.
Il y a beaucoup
offshore.
De travail sur le terrain qui est en cours de préparation. Je ne vais pas dire des bêtises et les gêner, mais il y a énormément de concertations, énormément avec les pêcheurs, les riverains, etc. Et donc aujourd'hui, alors ce qui est clair, c'est que aujourd'hui il y a des zones bien définies et bien claires. Hein. Il y a et en Méditerranée, et on ne parle pas de ces éoliennes au large du territoire du Var. C'est pas là qu'ils seront.
Il y a un projet en tout cas qui a été annoncé pour la région PACA, un autre aussi en Occitanie.
Région Sud, faut dire le Sud.
Région Sud, on peut la nommer ainsi également. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, le président, d'ailleurs, disait que lui, il souhaitait voir accélérer cette technologie. On n'en a jamais entendu parler à la métropole, pourquoi pas pour alimenter les quais en électricité. Non, c'est pas un projet qui a été soumis peut-être avec le président de la région, des discussions, est-ce qu'il y en a eu
pas nécessairement ce jour, parce qu'on a une contrainte forte que vous connaissez sur nos territoires, on en a parlé beaucoup jusqu'à maintenant, c'est la marine nationale. C'est-à-dire que parce qu'il y a la marine, il y a un certain nombre de contraintes qui s'imposent à notre port, dans une bande assez importante au-delà de Toulon, dans l'aérien, au niveau aérien, au niveau maritime. Donc ça peut obérer le développement d'un certain nombre de choses. Mais si on n'a pas ce type de technologie, on en a d'autres. Et par exemple, quand je vous entendais parler d'énergie verte, on peut citer l'incinérateur qui est à Toulon, qui permet de chauffer 5200 logements à Toulon et à la Seyne-sur-Mer. Donc on sait utiliser des éléments de notre environnement, des éléments que l'on produit lui-même à travers notamment nos déchets ménagers, pour le valoriser en énergie.
Alors, il y a quand même Christophe Avalon. Non, parce que il faut distinguer effectivement les compétences techniques et technologiques du marché. On a un acteur fondamental qui est une entreprise qui s'appelle Océanide, qui est un bassin BGO First, qui est un investissement qui date de plusieurs années, qui aujourd'hui est un des acteurs importants de l'éolien offshore en mer, puisque dans ces bassins on teste en grandeur réduite les éoliennes. Et donc ça, c'est dans la base marine Brégaillon. Nous avons aussi des acteurs scientifiques qui travaillent à l'université ou l'Ifremer sur justement les discussions avec l'environnement, les pêcheurs, les compensations, les ancrages, etc. Et nous avons beaucoup aussi d'industries, comme ECA, Naval Group, ECNIM, etc., qui travaillent sur les ancrages, le dimensionnement, les technologies, le soudage. Donc, c'est pas parce que le marché n'est pas à 2 km de notre littoral qu'on n'a pas les capacités de déployer des millions d'euros et de récupérer des millions inversement.
Depuis le début de cette émission, vous avez beaucoup parlé justement de recherche, développement, et on a bien pris la mesure de l'importance du dialogue entre les différents acteurs. Très concrètement, pour vous à MarineTech, Pierre Becker, quand vous mettez en place un projet, vous êtes dans cette dynamique-là de dialogue avec des acteurs très différents, autant les universitaires, les chercheurs, que les administratifs, que les techniciens.
Oui, je dirais que c'est une vocation. Avec Thierry, on a toujours été un vendeur, mais il y en a qui sont pianistes, il y en a qui sont... Et l'invention se fait quand on rapproche, je dirais, le besoin du client. C'est ce qui manque aux gens, si vous voulez. Quand je dis les gens, c'est un terme général. Si le problème qui se présente, on peut le résoudre. Donc on est des observateurs. Voilà, et c'est comme ça que on s'est lancé dans cette production d'eau avec Helio, mais on avait fait ça, on fait aussi, vous savez, le captage des sources d'eau sous-marine. Dans tous ces pays, il manque de l'eau et on sait aller la chercher au fond de la mer. Donc c'est des opportunités. Alors ensuite, bien sûr que naturellement, je dirais la Marine nationale, l'IFREMER, tous ces gens-là, oui. ils nous consultent, on les consulte, on fait ensemble, on leur fait du fait main, vous voyez, quand ils ont, il y a même des projets très spécifiques avec qui restent très discrets, qui sont pas publiés, mais qu'on peut réaliser.
Donc l'enjeu, c'est de fluidifier les relations entre les différents acteurs. Vous y employez, j'imagine, à la métropole de Toulon, Provence-Méditerranée, Boris Bernabeu.
Absolument, Antoine. C'est-à-dire que c'est le but d'une intercommunalité. On est là pour être à l'interface de tous ces acteurs qui ont des idées, qui n'ont pas forcément les financements, d'autres acteurs qui sont dans la recherche, d'autres acteurs qui assurent notre défense. Et on est au milieu de cet écosystème. Et il faut l'animer, il faut faire en sorte que tout fonctionne bien. Et honnêtement, je pense qu'une part importante du succès dont on parle autour de la table, parce qu'on a beaucoup de projets qui sortent et on traduit l'écosystème là depuis ce matin en parlant, c'est qu'on est une structure, on est un département qui sait travailler ensemble. On a des acteurs intelligents. C'est pas partout. On a cette chance-là d'avoir des acteurs qui ont envie de travailler, qui mettent l'intérêt général avant l'intérêt particulier, qui savent taper aux bonnes portes, qui ont les réseaux nationaux, qui ont les réseaux internationaux, et tout ça fait qu'on y arrive. Alors, je vais prendre un exemple, là, puisqu'on parle d'innovation. La Défense nationale, on en a beaucoup parlé, c'est un acteur essentiel du territoire. On ne fait rien à Toulon, et Hubert Falco le rappelle souvent, sans l'accord de la Marine. La Marine, c'est le tiers du territoire de la ville de Toulon. Mmh. Et en lien avec un acteur essentiel de la Marine, qui s'appelle la DGA, la Direction Générale à l'Armement, qui est la structure dédiée à l'innovation, on a mis en place sur Toulon une structure locale qui met autour de la table régulièrement la DGA, les start-up, tous ces acteurs de l'innovation, et on voit de quelle et la Marine nationale évidemment, et le but est de voir de quelle manière ces innovations qu'on développe sur le territoire peut intéresser la Marine, peut intéresser les innovations futures que recherche le ministère de la Défense. Au niveau national, il y a l'agence d'innovation de la Défense nationale, et au niveau local, on a Ginote. Voilà un exemple concret d'une action locale, d'une idée qui a germé entre la métropole, TVT Innovation, notre agence de développement économique, System Factory, la Marine nationale, la DGA, et qui a pu fonctionner parce qu'on fonctionne intelligemment.
Allez, on va faire une nouvelle pause musicale dans cette émission. Je lance un appel aux auditeurs varois, toulonnais ou autres d'ailleurs. N'hésitez pas à appeler dès maintenant le standard 04 72 38 20 23. Profitez-en, il reste 10 minutes avant la fin de cette émission. Donc si vous voulez poser des questions à mes invités, à nos invités du jour, n'hésitez pas, 04 72 38 20 23, vous pouvez également nous écrire. Extrait de Cargo de nuit d'Axel Bauer.
Toulon, le dynamisme de l'économie de la mer. Antoine Bélier, Thibault Sarrazin.
La mer a toujours été un lieu que les hommes ont voulu conquérir et maîtriser. Aux filières traditionnelles d'hier s'ajoutent les innovations technologiques d'aujourd'hui et de demain qui doivent plus que jamais associer préservation de la biodiversité marine et de l'environnement au sens large et croissance économique. Thibault Sarrazin, vous nous rappelez les trois invités qui ont accepté de participer à cette émission jusqu'à 10h.
Pierre Becker, associé fondateur de l'entreprise Marine Tech, Christophe Avelan, directeur adjoint du pôle mer Méditerranée, et Boris Bernabeu, directeur adjoint de la métropole Toulon-Provence Méditerranée.
Alors, nous avons une remarque d'un auditeur, Pierre de Lozère, qui veut parler du développement des croisières. Comment associer justement ce souci de la croissance économique que peut permettre le développement des croisières et puis la préservation de la biodiversité et du souci de l'environnement. Là, on se trouve face à un épineux problème, Boris Bernabeu. Tant que ça.
Épineux, je sais pas. On se trouve face à un sujet qui est entendu, qui est pris en compte, parce que le développement du tourisme, de la croisière, ne doit pas se faire au détriment de notre environnement, c'est certain. Et que s'il y a pu y avoir des excès, je crois que les armateurs ont bien compris que l'avenir de leur filière passe par la prise en compte d'un certain nombre d'éléments. Et ces immenses bateaux qu'on n'accueille pas à Toulon, d'ailleurs, ils sont pas sur notre port. Ces immenses bateaux intègrent aujourd'hui un certain nombre d'éléments en termes d'énergie, de recyclage des eaux usées, tout un ensemble d'éléments qui font que la croisière devient de plus en plus verte et de plus en plus vertueuse. S'agissant du port de Toulon, je vous l'ai dit, pour nous c'est un impératif et la question ne se posera pas. On électrifie les quais, on impose à nos armateurs qui fréquentent notre port d'utiliser un carburant propre, alors même que c'est pas une obligation. L'obligation légale, elle est à 0,5% de teneur en soufre. Le président de la métropole, en lien avec le maire de Nice, en lien avec le président de la région, ont décidé de ramener ce seuil à 0,1%. Donc, on sait conjuguer développement économique, parce que c'est essentiel pour nos territoires, parce que c'est des milliers et des dizaines de milliers d'emplois à la clé, et préservation de notre environnement, qui est tout aussi essentiel à notre territoire.
Il y a un projet de nouveau quai de croisière à Toulon. Ça a été compliqué de convaincre les armateurs de se mettre à la page et de répondre aux exigences de la métropole et de la région, aussi plus globalement.
Honnêtement, non, parce que Hubert Falco a su leur montrer l'intérêt qu'ils avaient à prendre ce virage-là, parce que c'est une attente sociale très forte. C'est comme ça, c'est une donnée aujourd'hui à prendre en compte, et si on ne la prend pas en compte, ce secteur-là disparaîtra. Et je crois que c'est l'intérêt de personne, parce qu'on a besoin de la croisière, on a besoin du dynamisme que ça crée. Vous parliez du quai de 400 mètres, oui, il y a un projet de réaménagement de notre linéaire maritime qui a été libéré par la Défense nationale, qui fait que un grand projet qu'on appelle Mayol-Pipadi va redessiner ce linéaire maritime, et on peut comparer ce qui va se passer à Toulon à ce qui s'est passé à Gênes, à Marseille, à Barcelone. On va redynamiser cette ville à travers ce projet qui passe notamment par ce quai de 400 mètres qui est dessiné en lien avec la Défense nationale. On l'a dit tout à l'heure, rien ne se fait dans le port sans la Défense nationale.
Allez, il nous reste 3 minutes avant la fin de cette émission. J'aimerais vous entendre sur la manière dont cette économie maritime dans le Var s'exporte. Pierre Becker, vous avez parlé il y a quelques minutes dans cette émission de la Polynésie. Dites-nous-en un peu plus, et peut-être au-delà, dans tous ces pays où vos technologies à Marine Tech s'exportent.
En Polynésie, il y a eu un grand concours qui a été lancé là, il y a quelques mois, et où ils ont sélectionné des entreprises là, pour concourir. Marine Tech a été lauréat, et donc ça nous a fait plaisir d'abord parce que ça débouche sur un travail, et en particulier ça montre que cette société est visible. Mais on est appelé dans le Golfe Persique, on a été appelé même en Iran, et malheureusement on ne peut pas faire ce qu'on nous demande pour des raisons militaires. Malabo est une société de taille moyenne. On peut dire que le monde entier nous connaît. Quoi.
Alors le monde entier vous connaît. Là-dessus, peut-être Christophe Avelan, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'effet vertueux des innovations qui sont mises en place dans le Var, dans le domaine de l'économie maritime ?
Il n'y a pas que l'effet vertueux, il y a tout simplement la dynamisme et l'innovation à la française qui s'exporte, vertueuse par définition et par défaut. Nous-mêmes, nous sommes connectés avec de nombreux clusters. Alors, déjà, il faut dire que les clusters à l'étranger ne ressemblent ressemble pas du tout à ce qu'on a en France. Nous, on mixe entreprise et science. Eux, ils sont plutôt soit uniquement science, soit plutôt entreprise, mais on discute avec eux. On a de nombreux programmes européens engagés avec de l'interclustering partout en Europe. Nous avons aussi des élections internationales sur le grand esport, sur l'Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Canada, Chine, Japon, et j'en oublie certainement. Et à chaque fois, nous avons une dizaine, une quinzaine d'entreprises, comme le rappelait Boris Bernabeu, le CES Las Vegas aussi. C'est intéressant, même si, a priori, on dit et le maritime dans tout ça, oui, mais le numérique aussi, le maritime est numérique,
c'est vrai qu'on n'a pas
digital.
Parlé du numérique.
Ah, le numérique, c'est vraiment un axe fort de la métropole, de la région, des acteurs du pôle mer. Le monde demain et le monde du transport sera aussi digital et numérique.
Allez, il nous reste une minute, Boris Bernabeu. On peut, si vous voulez, en une minute, évoquer cette question du numérique et puis peut-être conclure.
Oui, alors le numérique, effectivement, c'est un axe essentiel du développement de nos territoires parce qu'on l'a déjà dit, on a cet écosystème, parce qu'on a des entreprises qui innovent depuis des années, on a des écoles d'ingénieurs, on a des écoles de numérique qui font qu'on a tout cet écosystème qui répond aux besoins de la défense et d'un certain nombre d'acteurs majeurs du territoire, notamment Naval Group, CNIM ou autres. Et pour finir sur une touche internationale, puisque c'était l'objet de la conclusion, moi je voulais juste dire que nos territoires existent à l'international par les classements qui nous concernent. Et là, j'observe que cet été, le Guardian a cité comme Toulon comme une des 6 stations balnéaires d'Europe où il faut aller. La plage de Notre-Dame hier a été classée plus belle plage d'Europe en 2015. Bref, tout ça, c'est une grande satisfaction pour nous.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci à chacun d'y avoir participé. Merci à vous, Thibault Sarrazin, de m'avoir accueilli ici dans les studios de RCF Toulon. L'émission, l'opération spéciale à Toulon continue, hein, Thibault, à 12h30. C'est ça, à partir de 12h30?
À partir de 12h30, on quitte Toulon. On va se déplacer à Signes, où Audrey Souriau et Florence Gault nous parleront d'agriculture et également d'une problématique de plus en plus importante qui concerne les dépôts sauvages.
Merci beaucoup, Thibault.